après Barbie, du coup, est-ce que c'est le surendettement ou l'écologie qui a pris le dessus au début sur une année
difficile ? C'est la bombe atomique.
Évidemment, c'est les deux sujets qui nous intéressaient. Et évidemment, on avait intuitivement la sensation qu'il y avait une complémentarité possible, un pont possible entre les deux, puisque il y a un rapport entre le plus et le moins, le vide et le plein, et on a travaillé ces sujets-là en corrélation, en réfléchissant à qu'est-ce que ça pouvait imbriquer, et c'est la comédie qui est venue se poser comme solution à essayer d'expliquer, à mettre en relation des situations justement entre des gens qui sont que dans la consommation, la surconsommation, et qui n'ont que faire de l'avenir de la planète, et des gens qui se préoccupent beaucoup moins d'eux-mêmes, et qui, en gros, des gens qui veulent se sauver eux-mêmes dans la vie, et d'autres qui veulent sauver le monde. Et c'est ce paradoxe-là et ce parallèle-là qu'on a voulu mettre en scène à travers une comédie un peu à l'italienne, un peu grinçante comme ça.
Alors, vous avez collaboré avec des associations militantes pour la préparation du film. Est-ce que vous avez fait la même démarche avec des personnes en situation de surendettement ?
Mmh, tout à fait.
Ouais.
On a été accueillis par une association qui s'appelle Crésus, qui essaye d'aider, gérée par des bénévoles, qui essaye d'aider des gens en situation de surendettement et de précarité. Donc oui, on a fait des ateliers d'éducation budgétaire pour aller à la rencontre des gens jusqu'au parcours de la Banque de France. On a suivi des gens qui avaient vraiment des soucis de surendettement. Parce qu'en France, il faut savoir qu'on a le droit à une deuxième chance. On peut se faire effacer les dettes par la Banque de France. Donc c'est la constitution d'un dossier. C'est tout un protocole et on est rentré dans les rouages de ce protocole.
Ouais, peut-être beaucoup d'éditeurs qui vont le découvrir du coup avec le film. Alors quand on débute dans le cinéma, on vit forcément des années parfois difficiles. Quand on est étudiant aussi, est-ce que ça a été votre cas? Et si oui, quel regard est-ce que vous avez sur ces années-là aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles vous ont appris?
Déjà, nous, on les a vécues à deux, ensemble, à l'époque, puisqu'on s'est rencontrés à l'époque où on était justement étudiants et dans la post-adolescence. On a fait pas mal de petits boulots, on a vécu des années... Alors, ces années difficiles, elles sont assez formatrices. Pour moi, je pense que ce serait arrivé d'un coup et on aurait pu faire des films plus tôt, on aurait été moins mature pour aborder le sujet. Il faut qu'il y ait eu du désir, il faut même qu'il y ait eu de la frustration, à mon avis, pour que on soit content de monter de temps en temps sur le podium quand un film fonctionne. Pour le coup, on a réussi à transformer à peu près toutes nos expériences en films. On a travaillé dans des mariages, on a fait le sens de la fête, on a travaillé dans les colonies de vacances, on a fait nos jours heureux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme...
Hors normes,
on a côtoyé des associations qui s'occupaient d'enfants autistes, on a même travaillé pour eux et on a fait hors normes. Donc je pense que c'est des années sandwich de où justement on se nourrit de sandwich d'ailleurs, mais où on se nourrit de matière qui va à un moment ou un autre sortir en fiction.
Alors, dès l'intro, vous mettez beaucoup de rythme, ça va vite, c'est quelque chose qu'on a déjà vu par exemple dans Hors Normes avec Une Course Poursuite. Tout au long du film, on va avoir beaucoup de décors différents, on imagine beaucoup de moyens en termes de production et d'autorisation de tournage, ça a dû être un défi pour certains endroits, je pense au Trocadéro ou la Banque de France.
Oui, c'est un défi, ce film n'a été qu'une succession de défis à relever, et c'est tant mieux parce que... on aime aller dans des nouveaux territoires et se mettre en danger et relever des défis. Oui, en production, ça a été un film compliqué à échafauder.
Alors, est-ce que ça vous manquait un petit peu après en thérapie ou c'est quand même beaucoup plus calme en termes de
très franchement, ça nous manquait. Ouais, parce que effectivement, on a passé 4 ans. À écrire des scènes de chant contre chant entre deux personnes, c'était fabuleux. Il fallait tout passer par le jeu et l'intériorité. Mais il était temps qu'on retrouve la vitalité. Et puis c'est surtout aussi le post-Covid. Cette espèce de restriction de nombre de gens nous a sûrement donné envie d'écrire une scène avec 300 figurants dès le début.
Alors on a Pio Marmaille et Jonathan Cohen au casting qui sont deux grosses personnalités. En gérer un sur un plateau, c'est ok, mais les deux en même temps, comment est-ce que ça s'est passé? Ça a été simple?
C'est le bordel. À pas se mentir, c'est le bordel. Ils sont deux fortes personnalités. Il faut les canaliser, on n'était pas trop deux. On peut dire des choses comme ça.
Après, oui, ce sont quand même de grands pros.
Oui.
De grands pros. Donc, si vous voulez, ils savent aussi l'importance l'enjeu d'une journée de tournage et de scènes à tourner, du travail à abattre. Mais c'est vrai qu'on nommait pas avec eux la déconne. Il y a de la déconne et du coup c'est à nous de la canaliser, de la transformer et pour que ça soit salutaire pour le film. C'est un échange.
Et du coup, comme Jonathan, il a déjà été réalisateur.
Votre cuisine manque de fonctionnalités.
ce n'est pas une Arthur Bonnet. Jusqu'au 30 juin, on vous offre la pose de votre cuisine. Découvrez notre nouveau service, travaux d'intérieur et salle de bain, pour encore plus de place et de confort. Arthur Bonnet à Saint-Gervais-la-Forêt.
Arthur Bonnet, cuisine et rangement.
Voir conditions en magasin.
Pense avec le plus de dates possible pour accompagner le film jusqu'au 18 octobre, la date de la sortie. Donc voilà, on en profite, on va à la rencontre des gens et en même temps ça nous permet peut-être soit de nous rassurer un petit peu ou de nous calmer.
Ah justement, vous parlez des doutes, alors quelle part de vos propres doutes et certitudes est-ce que vous avez intégré dans le film? Est-ce que des fois vous refusez un discours un peu trop radical, peut-être dans les dialogues ou dans une partie du scénario? Et du coup, sur ce duo, de quel personnage vous sentez-vous le plus proche?
Oh, on se sent proche, en fait, c'est un peu bizarre parce que on se sent proche de tous les personnages parce que on les a fait tous parler. C'est un peu un théâtre de marionnettes, un film. Donc, quand Noémie se met à dire, on est là, avec un mégaphone dans la main, on est la première génération à subir vraiment les effets du changement climatique et peut-être les derniers à agir. Je me sens proche de ce qu'elle raconte parce que c'est vrai qu'on nous parlait de ça à échéance de 2050 et qu'on voit que l'été qu'on vient de passer nous prouve que ça y est, c'est arrivé plus vite que prévu. Mais je me sens proche des losers magnifiques, d'un gars. Je me dis, si j'étais dans sa situation, j'ai toujours pensé, par exemple, qu'est-ce qu'on fait des objets qu'on perd à la sécurité quand on perd un parfum, un déodorant? Je me suis dit, si j'étais dans la merde, j'irais tout de suite aller les chercher pour en faire quelque chose. Donc, tous les personnages nous intéressent.
Même le chien empaillé.
Même le chien empaillé. tous les personnages nous intéressent. On les défend tous. Et c'est tous un peu nous-mêmes et pas du tout. Et c'est ça la force de l'écriture, c'est qu'on peut mettre de soi et mettre de quelque chose de totalement différent. Et c'est le mélange que ça donne à la fin qui peut être savoureux ou pas. C'est vous qui jugerez.
Alors, du coup, en vous rapprochant de différentes associations pour préparer le film, vous côtoyez des gens, du coup, qui vont être dans le milieu écolo, des gens qui vont être en surendettement. Est-ce que c'est pas trop compliqué derrière dans l'écriture d'être, entre guillemets, moqueur pour faire rire les gens avec ce genre de sujet, sans essayer de les blesser, sans les blesser à aucun moment dans le film?
Mais nous, le mot moqueur, on l'a enlevé de notre vocabulaire parce que ça n'a jamais été un rire qui nous a intéressé. La moquerie, c'est depuis l'école, les moqueurs on leur pète la gueule. C'est pas de la moquerie. C'est ce que nous on trouve beaucoup plus noble, c'est le fait de rire de soi, l'autodérision. Et ça, au contraire, c'est peut-être le comble de l'élégance et de l'intelligence. C'est d'arriver à avoir le recul pour pouvoir se dire que on est finalement dans un théâtre humain, comme je disais, de marionnettes, et que c'est en se moquant de soi qu'on arrive un tout petit peu à avancer. Donc on a toujours fait ça. Si on l'avait eu peur, alors on aurait dit, on se moque des gens en fauteuil roulant, puisque dans Intouchables il y a 1000 vannes sur la façon qu'on a d'être en fauteuil. Et pareil, on n'aurait pas abordé un sujet comme l'autisme en racontant des choses à droite et à gauche. On ne moque pas, on rit de situations pour mieux les appréhender, pour mieux les vivre et pour mieux les digérer. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais le mot moqueur, quand on se moque, c'est qu'on se situe au-dessus d'une situation. J'ai pas l'impression et qu'on ait la prétention de se situer au-dessus de quoi que ce soit. Mais je comprends la question, évidemment.
Alors du coup, si jamais demain il y avait un monde parfait, s'il y avait, admettons, une année facile, est-ce qu'on pourrait encore faire des comédies s'il y avait plus de problèmes?
Non, parce que la comédie, elle se nourrit du drame et que le drame et la comédie sont voisins, comme l'amour et la haine, comme beaucoup de choses qui sont antagonistes. Donc non, mais peut-être.
Tu penses qu'on va avoir des années faciles là?
Non, 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 c'était juste pour.
Non, mais c'est vrai qu'on se nourrit de la difficulté à vivre et. Mais en même temps, la comédie humaine, la comédie de la vie, c'est encore une fois, c'est d'essayer d'avoir du recul et de rire de soi. Donc, tant qu'on pourra le faire, alors l'air sera respirable. Là, au moment où on pourra plus le faire, faudra faire attention. Et n'oublions jamais que dans les dictatures, les premiers qui sont atteints, c'est les comiques, ceux qui veulent justement rire des puissants ou du pouvoir. Il faut garder cette capacité à rire et à s'analyser et à être en introspection.
Et la toute petite dernière, vous préférez être aimé ou humé?
Les deux, mon colonel.
Moi, je pense que quand on hume bien, quand on hume bien, quand on hume bien quelqu'un, c'est qu'on a de l'humour.
Vibration. Vibrez avec nous.
Down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so wild.
Nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Le gros plan de la rédac. Mobilité, comment réduire nos émissions. Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 5.
Bioéthanol, GPL ou hydrogène, ces solutions sont-elles efficaces? Vous l'aurez compris, tout au long de nos épisodes, la solution la plus intéressante à l'avenir est de sortir complètement du moteur thermique. Oui, mais voilà, la fin de vente de véhicules à moteur thermique est prévue en Europe en 2035, avec l'espoir d'une sortie totale après 2050. Alors, comment engager cette transition et surtout, quelles solutions proposer à court et moyen terme? Parmi ces solutions, l'hydrogène, possible sauveur du moteur thermique. 6 cylindres, turbocompresseur à l'arrivée d'air, filtre à particules, d'apparence ordinaire, la puissance mécanique de ce moteur se fera à partir d'hydrogène propre. C'est la réaction explosive entre le dioxygène et le dihydrogène qui va permettre de créer cette énergie. Une technologie qui n'est pas encore maîtrisée et qui pourrait ne pas correspondre à toutes les attentes, selon le chercheur sur la transition énergétique des transports, Aurélien Bigot.
En effet, il y a des risques qui vont être un des défis du développement de l'hydrogène. La particule d'hydrogène est très fine, du coup il va y avoir des risques de fuite dans les réservoirs, etc. Donc voilà, il y a des défis techniques qui vont nécessiter plutôt de le garder pour les modes de transport qui sont les plus difficiles à décarboner via d'autres types de solutions.
Le 20 janvier 2023, par exemple, 5 personnes ont été blessées dans l'incendie d'un prototype de véhicule à hydrogène. Un accident survenu dans le laboratoire de l'université de technologie Belfort-Montbéliard, entraînant une importante intervention des pompiers. Mais au-delà du côté sécuritaire, l'hydrogène présenterait aussi quelques effets paradoxaux.
Il faut produire l'hydrogène. Aujourd'hui, il est principalement produit à partir d'énergie fossile, donc d'un point de vue émission de CO2. Aujourd'hui, l'utilisation de l'hydrogène n'est pas vraiment vertueuse, n'est pas vraiment intéressante d'un point de vue climatique. Et puis, du coup, va être plus coûteux aussi, parce que pour produire à l'avenir de l'hydrogène à partir d'un processus qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau pour obtenir de l'hydrogène, eh bien ça va demander beaucoup d'électricité, plus que si jamais on utilise directement l'électricité dans un véhicule électrique avec une batterie. En tout cas, à chaque fois qu'il y a une transformation énergétique à faire, on va perdre une partie de l'énergie. D'où au final le fait qu'il y a besoin de plus d'électricité sur l'ensemble de la chaîne pour faire rouler un véhicule à hydrogène. Soit on veut utiliser l'hydrogène dans un moteur à combustion interne, comme aujourd'hui on peut utiliser du pétrole dans nos moteurs de voitures par exemple. Et là, ces moteurs-là sont assez inefficaces, d'où le fait qu'il faut sur l'ensemble de la chaîne plus d'électricité. C'est un peu l'un des principaux inconvénients de la filière hydrogène comparée à l'électrique.
Un moteur qui doit être adapté et qui consomme plus d'énergie que ce qui est présenté. Bon, voici le constat pour l'hydrogène. Alors, quelle autre solution ? Peut-être modifier le réservoir pour adapter son ancien moteur thermique. La crise actuelle des carburants a remis au goût du jour le bioéthanol, par exemple. Au 20 janvier 2023, l'écart de prix est de 76 centimes entre un litre de superéthanol et un litre de sans-plomb 95-10. À la pompe, le 85 se trouve autour d'1,20€ le litre, ce qui fait de lui le carburant le moins cher. Quelle production permet d'atteindre ce prix ? Élément de réponse avec Nicolas Kurtsoglou du syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
Alors aujourd'hui, donc c'est blé, betterave, maïs, c'est 0,6% de la surface agricole utile nette des coproduits qui sont utilisés pour faire du bioéthanol. Donc c'est une surface extrêmement faible pour produire beaucoup d'énergie, puisque en fait on produit 12 millions d'hectolitres de bioéthanol avec 0,6% de la surface agricole utile, et on peut faire rouler plusieurs centaines de milliers de voitures. Donc là on a de l'alcool et de l'eau, et ensuite on fait une distillation. Et là, on obtient de l'éthanol pur à 99,99%. Cet éthanol est envoyé dans des dépôts pétroliers et il est ajouté avec un peu d'essence pour faire soit du superéthanol E85 qui contient entre 60% et 85% d'éthanol, le reste c'est de l'essence, soit à 10% d'éthanol et 90% de sans-plomb pour faire du sans-plomb 95 E10. Le superéthanol E85 par rapport à l'essence sans-plomb 95 E10 divise par 2 les émissions de CO2. Le bioéthanol pur, on fait moins 77% de gaz à effet de serre. C'est bon pour la qualité de l'air, puisqu'on divise par 10 les émissions de particules fines par rapport à l'essence. Et puis surtout pour l'indépendance énergétique. On peut produire notre carburant et notre énergie chez nous plutôt que d'importer du gazole russe. La France est le numéro 1 du nucléaire et c'est un peu moins connu. Elle est le numéro 1 du bioéthanol aussi en Europe.
L'année 2022 a été une année particulière, avec une crise du carburant exceptionnelle. Un regain d'activité a donc été constaté du côté du bioéthanol, lui qui semblait un peu mis de côté à la fin des années 2010. La consommation du bioéthanol s'est envolée de 83% l'an dernier, soit plus de 854 millions de litres sur 12 mois.
Il y a 12 ans, il y avait à peine 1% des stations qui proposaient le 85. Voilà, aujourd'hui, on est à plus de 1 sur 3, donc plus de 33%. Les volumes de superéthanol E85 ont été multipliés par plus de 10. Effectivement, l'écart de prix entre le E85 et l'essence sans plomb 95-10 est aussi tout à fait significatif et fait que les gens ont envie de l'utiliser. Et tout simplement, il faut un peu de temps pour que la notoriété d'un produit se fasse. Plus le produit est présent sur les totems des stations-service, plus on le voit, plus on a envie de l'utiliser, puisqu'il y a un écart de prix substantiel.
Alors, comment bénéficier de ce biocarburant ? Eh bien, soit en achetant un véhicule qui avance au bioéthanol, soit en faisant la conversion vers un boîtier flex fuel pour votre voiture actuelle et qui fait la conversion au niveau de votre réservoir.
Sur les voitures essence d'occasion, c'est toutes les voitures qui sont immatriculées depuis 2001 et après. Et ensuite, il faut qu'elles soient compatibles E10, évidemment. Et donc, effectivement, vous allez en fait sur info85.fr et vous avez la liste des 4 fabricants de boîtiers E85, et sur chacun, il y a la liste des garagistes qui sont les plus proches de votre domicile, et donc vous pouvez ensuite demander un devis à chacun.
Mais est-ce un carburant d'avenir ? Dans un tableau comparatif permettant de choisir l'énergie de votre futur automobile propre, l'Automobile Magazine a classé chaque énergie selon ses avantages et ses inconvénients. Le bioéthanol est présenté comme la solution optimale pour être plus performant et plus propre afin de rouler à la fois en ville, sur route et sur autoroute.
On a fait des petits calculs en passant seulement de 0,6% à 1% de la surface agricole utile, on passe de 12 millions d'hectolitres à 18 millions d'hectolitres de bioéthanol, et avec des voitures qui sont de plus en plus hybrides et hybrides rechargeables, donc qui consomment de moins en moins de litres de carburant liquide par 100 km, on peut faire tourner plus de 5 millions de voitures. Et donc c'est en gros 17% du parc automobile qui pourrait être à breveter entre guillemets de super éthanol avec seulement 1% de la surface agricole utile. Il y a des solutions qui sont disponibles là et il y a un certain nombre d'industriels qui peuvent à la fois au niveau voiture, boîtier et distributeur de carburant proposer des solutions. Donc, sur les immatriculations de voitures neuves, on voit des fortes augmentations pour des voitures hybrides. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des hybrides essence pure. On peut espérer que ce soit des hybrides essence avec un boîtier éthanol ou des hybrides flex 85 d'origine. Ça permet déjà de décarboner extrêmement fortement. Nous-mêmes, on a commandé une étude à l'IFPEN pour analyser en analyse de cycle de vie les émissions de gaz à effet de serre. Et on voit qu'une hybride rechargeable E85 est au même niveau et parfois un peu meilleure que la voiture électrique avec une batterie. Parce qu'aujourd'hui, la batterie a un impact CO2, une empreinte CO2.
Pourtant, tous les feux ne seraient pas au vert. Déjà, il faut signaler que l'E85, au même titre que les carburants classiques, va également subir les restrictions à venir sur les émissions de CO2. S'il est donc une solution, il n'y a rien d'optimal, selon le chercheur Aurélien Bigot.
La principale chose qui bloque, c'est le niveau de ressources disponibles de manière durable pour alimenter ces biocarburants. Si on voulait remplacer tout le pétrole par du biocarburant, soit il faudrait avoir une énorme partie des cultures qu'on utilise actuellement pour l'alimentation qui serait fléchée, disons, vers ces biocarburants, soit on n'a pas assez de ressources si on veut que ce soit produit à partir, disons, de déchets ou à partir de ressources qu'on ne peut pas valoriser par ailleurs. Donc c'est vraiment le principal problème. Et actuellement, en termes de bilan carbone aussi, le fait d'avoir des biocarburants qui sont beaucoup en concurrence avec les usages alimentaires, donc par exemple pour le bioéthanol, ça va être produit beaucoup à partir de maïs, de blé, de betterave, etc. Et bien en fait, ça va avoir des émissions quand même loin d'être négligeables. Et c'est pour ça qu'on doit réserver ce potentiel de biocarburant qui est assez limité, si on veut le produire à partir de déchets, plutôt vers des véhicules, vers des modes de transport pour lesquels il n'y a pas d'alternative suffisamment prête, suffisamment efficace sur les prochaines années ou à plus long terme. Comme par exemple les poids lourds, l'électrique devrait être davantage complété par de l'hydrogène, potentiellement par des biocarburants ou par du biogaz, qui va être un peu le même type de carburant que les biocarburants, donc à partir de biomasse aussi, mais ça va être sous forme gazeuse. Donc là, ça demande de changer les moteurs. C'est des moteurs qui consomment du gaz, mais du gaz biosourcé, entre guillemets, qu'on peut obtenir à partir de résidus de plantes, par exemple.
Et oui, car d'autres carburants alternatifs sont expérimentés. Le gaz de pétrole liquéfié, ou GPL, qui est issu du pétrole, est constitué principalement de butane et de propane. Le gaz naturel véhicule, ou GNV, est quant à lui essentiellement composé de méthane. Ce dernier peut à la fois provenir de gaz naturel ou de biométhane, un gaz vert renouvelable. Mais ce n'est pas la solution idéale. Déjà, parce que les pompes se font plus rares. Mais aussi parce que leur composition ne présente pas une alternative très décarbonée. Autre solution évoquée, l'huile de friture. Alors attention, seuls les moteurs diesel peuvent la supporter. Le législateur conseille un mélange de 30% d'huile usagée pour 70% de diesel et surtout pour des moteurs anciens. Difficile donc de voir ce carburant comme un carburant d'avenir, même si le Sénat a donné son feu vert à la législation de l'huile de friture usagée comme carburant pour des véhicules appartenant à une entreprise ou une collectivité. McDonald's, par exemple, utilise sa propre huile pour ses camions de transport. Pour le chercheur Aurélien Bigot, le potentiel reste donc limité.
Le potentiel de production pour ces biocarburants qu'on appelle de seconde génération, donc à partir de déchets, typiquement l'huile de friture, au lieu de l'acheter, c'est très intéressant de la transformer en biocarburant et puis de pouvoir l'utiliser dans des véhicules. Mais on voit bien que l'huile de friture a un potentiel qui reste assez limité. On va pas se mettre à tous manger des frites à longueur de journée exprès pour avoir plus d'huile de friture pour alimenter nos voitures, nos camions, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel qui peut être utilisé, mais il sera forcément limité. Et à ce moment-là, autant développer le potentiel qui existe, mais il ne faut pas compter dessus comme une solution de masse à l'avenir pour décarboner les transports.
Voilà donc pour ces quelques solutions alternatives. L'ADEME, agence de la transition énergétique, considère que l'électrification du parc automobile est un levier incontournable. Mais elle n'est pas suffisante pour que la transition soit pleinement efficace sur les plans environnementaux, sociaux et économiques. Il faut donc passer par un mix. Et pourquoi pas imaginer, selon les utilisations et les distances parcourues, passer sur une hybride électrique bioéthanol. Une hybride qui réduirait encore plus nos émissions, plus qu'une hybride avec essence ou juste un véhicule essence ou diesel. Pour découvrir plus d'éléments autour des nouvelles mobilités et des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Vibration. Vibrez avec nous.
sentiment, faut qu'on parle gentiment. Sentiment, faut qu'on parle sentiment. Ah, yeah. Compliment, tu donnes des frissons comme le piment. Tu viens de quel continent? Faut que je fasse mes documents. Ah, tu me fais des coulisses sombres. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Les villas, les bolidas. Vivre à Santa Monica. Un mec qui joue de la guitare. Tu veux Napoli, Margarita. Tu veux qu'on passe la noche sous les étoiles. T'aimes trop faire ta loquita. Et le soir tu danses comme Anita. Ah, tu me fais des coulisses sombres. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Pourquoi t'as fait ça? Oh maman c'est temps. Pourquoi t'es comme ça? Oh maman c'est temps. Pourquoi t'as fait ça? Oh maman c'est temps. Pourquoi t'es comme ça? M'énamoré, yo m'énamoré. La vie d'Almosa t'éraré. Maman, toi contre moi, maman. Moi contre toi, maman. Jusqu'à Rio.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un compte Instagram qui lutte contre le sexisme ordinaire, mais de façon humoristique. Ça s'appelle Punchlinette. On a interviewé la personne qui a créé Punchlinette. Elle s'appelle Marion. Alors, la première question qu'on a voulu lui poser, c'est ça existe depuis quand ?
Alors, ça existe depuis avril 2019, donc c'est tout récent. On a lancé le projet exactement le 7 avril.
Alors, quand vous dites « on », c'est qui ?
C'est moi et ma communauté. En fait, j'utilise beaucoup le pronom personnel « on » parce que je m'inspire beaucoup de ce que peut me dire la communauté, par exemple, leurs témoignages, etc. Donc, c'est vrai que j'utilise beaucoup le pronom personnel « on » quand je réponds aux commentaires aussi, et c'est devenu une habitude. Donc, c'est vrai que je suis toute seule derrière le projet, mais voilà, je m'appuie beaucoup de la communauté aussi.
Alors, du coup, vraie question, pourquoi avoir voulu monter ? Qu'est-ce qui s'est passé en avril 2019 pour que vous ayez eu envie de lancer ce site, ce compte Instagram Punchlinette ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, l'idée, elle est venue de nombreuses aspirations déjà, parce que ce qui a motivé le plus ma démarche, c'est surtout mon expérience personnelle, ce que j'ai pu voir et entendre autour de moi. Et puis, je suivais effectivement de nombreux médias et comptes engagés. Et en fait, je me suis aperçue qu'un bon nombre d'entre eux mettaient en lumière des témoignages, par exemple, sur le harcèlement de rue ou le sexisme pour le dénoncer. Mais il y avait vraiment... Il n'y en avait aucun, en fait, qui proposait des éléments de réponse faciles à mémoriser ou à contextualiser, par exemple, et à réutiliser. Et du coup, j'ai voulu proposer un outil utile, pédagogique et communautaire, comme je vous le disais. Car oui, Punchinette, c'est un projet collaboratif. J'essaie toujours de trouver les punchlines les plus appropriées et sarcastiques possible pour répondre aux témoignages.
Et alors, quand vous dites que vous vous êtes inspirée de votre expérience personnelle, c'est-à-dire en tant que femme, on est forcément confronté à un sexisme ordinaire forcément un moment dans sa vie, c'est ça?
Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est tellement ancré dans la culture qu'on ne s'en rend même plus compte. On a deux sortes de sexisme ordinaire, si je peux dire ça comme ça. Il y a le sexisme qui est vraiment agressif et volontaire. C'est les personnes qui sont misogynes et qui l'assument, par exemple, et qui vont venir insulter, qui vont venir dire « Non, mais voilà, les hommes sont plus forts que les femmes, par exemple, c'est normal, c'est comme ça. » Et puis, il y a le sexisme ordinaire bienveillant, qui est celui qui se cache plus dans les compliments, par exemple. C'est celui qu'on ne se rend pas forcément compte, et pourtant, il est bien présent. C'est, par exemple, quand on dit « Ah, tu es vraiment très compétente pour une femme. » En fait, c'est un compliment, mais derrière, c'est un signe que les femmes, de manière générale, ne le sont pas forcément. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux, et dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, je pense qu'on le fait tous au moins sans s'en rendre compte dans sa vie. Donc c'est important de le pointer du doigt, parce que c'est quand on le pointe du doigt qu'on peut le dénoncer et qu'on peut y répondre. Et puis comme c'est aussi l'affaire de toute une conscience collective, voilà, c'est toucher les plus jeunes et les moins jeunes aussi, et pour leur expliquer que c'est des choses qui nuisent un petit peu à l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui serait peut-être intéressant de s'y atteler, quoi.
Alors moi, ce que je trouve cool, c'est que c'est quand même un peu traité avec humour pour essayer justement de dédramatiser, parce qu'on entend beaucoup parler de féminisme et des fois les gens sont là « Oh, vous nous saoulez !» Alors que là, au moins c'est rigolo, c'est pratique. Comment vous faites justement pour trouver tout ça? Enfin, vous trouvez où l'inspiration de trouver à chaque fois des bulles et des nouvelles réponses?
En fait, c'est assez aléatoire, j'avoue. J'ai plusieurs techniques. D'ailleurs, j'en dévoile quelques-unes dans ma story à la une qui s'appelle « Petit guide de la punchline en situation de sexisme ordinaire ». Vous pourrez y jeter un coup d'œil. Et en fait, je m'inspire beaucoup de la culture populaire, de blogs, d'artistes, d'humoristes, de films, même de dessins animés parfois. Je regarde beaucoup les commentaires sur les réseaux sociaux. Ça aussi, on trouve beaucoup de témoignages, beaucoup de contre-exemples, de punchlines. Donc, j'essaie toujours de mentionner mes inspirations quand elles ne sont pas forcément issues que de moi. Et quand elles sont conçues par la communauté ou par moi-même, je ne les mentionne pas. C'est un défi, la construction de punchline.
Et du coup, quand vous dites communauté, justement, elle réagit comment, cette communauté? Elle vous dit quoi, en général?
En fait, il y a plusieurs sortes de réactions. La première, c'est celle qui est vraiment dans l'affront, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est les personnes qui viennent insulter gratuitement. Nous, on pense que ce type de personnes-là, ça cache quelque part une certaine fragilité, parce que, enfin, elles se sentent menacées par une quelconque égalité entre les femmes et les hommes, en fait. Ce type de personnes qui s'insurgent majoritairement sur toutes les questions liées aux vêtements ou les capacités physiques, beaucoup, j'ai remarqué. Il y a aussi les personnes qui, par exemple, vont venir commenter en pensant que la remarque, elle n'est pas forcément sexiste. Et donc, ils posent des questions. Et j'aime beaucoup répondre à ce type de personnes parce qu'en fait, ils sont généralement ouverts à l'esprit et ouverts au débat. Donc, on peut échanger librement, on peut donner davantage d'arguments, donner des exemples. Pour être honnête, on a réussi à faire changer d'avis de nombreuses personnes, ma communauté et moi, en cours de route, comme ça. Et c'est super bien, en fait, parce que même si les personnes, elles campent sur leur position, et ça arrive, on sait qu'on a planté une petite graine pleine de conscience et qu'elle prendra le temps qu'il faudra, mais qu'elle finira par mûrir. Et ensuite, il y a le dernier type de réaction qui est vraiment plein de bienveillance, et c'est les personnes qui m'encouragent au quotidien, les abonnés, ceux qui découvrent, ceux qui veulent aider, qui viennent discuter par message, qui demandent de l'aide, qui donnent des suggestions aussi, et qui transmettent beaucoup d'amour, qu'ils soient de la part de femmes ou d'hommes. Je reçois beaucoup de messages et ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, et ça rappelle pourquoi Punchlinette existe au quotidien.
Mais du coup, vous dites Punchlinette ou Punchlinette d'ailleurs?
Punchlinette,
ok, comme ça me permet de pas dire de bêtises. Et alors, vous faites ça bénévolement? Vous faites pas ça pour essayer de peut-être plus tard faire quelque chose? Enfin, vous faites ça en plus de vos études ou de votre boulot, ou pas du tout?
Alors voilà, j'ai un boulot et je fais mes études à côté, les deux. Donc je fais vraiment ça à côté. C'est vraiment une passion, m'investir pour la cause. Après, je regarderai comment est-ce que je peux la développer plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'idée, elle est vraiment là, quoi. Faire ça à côté et aider les gens.
C'est un truc qui vous fait kiffer, quoi. C'est vraiment...
Exactement.
Et ça vous prend beaucoup de temps, d'ailleurs, par jour ou pas?
Ça dépend comment on s'organise. C'est vrai que moi, j'aime bien m'organiser le week-end pour la semaine, par exemple. mais quand j'ai pas le temps, je fais au jour le jour et ça prend du temps. Ce qui prend le plus de temps, pour être honnête, c'est la recherche de punchline, parce que les témoignages, ils sont là, la communauté participe activement à la transmission des témoignages, ils demandent beaucoup d'aide, voilà, on m'a dit ça, comment est-ce que je peux y répondre, est-ce que vous pouvez me donner une punchline? Donc en général, on la réutilise, on cherche une punchline et on la publie dans le feed. Mais c'est vrai que la recherche de punchline, voilà, je suis très exigeante sur le sujet, j'ai vraiment envie que ça soit drôle et pas que ça soit agressif, parce que je suis convaincue que c'est plus sympa de répondre en se moquant qu'en agressant, et c'est plus efficace. Donc voilà, c'est plus ça qui me prend beaucoup de temps, je dirais à raison de peut-être 4 heures par semaine, 5 heures par semaine.
Et alors ma dernière question, ce serait, ça va être la plus dure je pense, c'est si vous pouviez faire un top 3 actuellement de vos punchlines préférées, celles depuis que vous avez commencé, celles qui, alors soit parce que vous les aimez particulièrement, soit parce qu'elles ont beaucoup fait réagir ou qu'elles ont suscité le débat, 3 punchlines qui vraiment vous ont marqué.
Alors j'en ai déjà 2 en tête, je cherche la 3e.
Sinon 2 c'est déjà pas mal. Hein.
Ouais, alors la première que j'aime beaucoup, c'est ça se passe à l'école et c'est un garçon qui voilà, enfin, il y a une fille, c'est normal, les filles sont nulles en maths. Et la fille lui répond, bah t'étonnes pas si je te calcule pas. Voilà, par exemple. Et la deuxième, c'est, je pense, celle qui a fait plus parler d'elle. C'est un homme qui dit à une femme, non, mais t'as vraiment une jupe de pute. Et elle lui répond, ah oui, j'ai aussi le master, le permis de conduire, ça fait chier le progrès, pas vrai. Donc voilà, ces deux-là, je les aime beaucoup.
Et elle avait beaucoup fait réagir, celle-là?
Ah oui, elle a beaucoup fait réagir et de manière positive et négative, les deux. Donc je suis au quotidien les remarques pour pouvoir y répondre, parce que j'aime pas laisser les remarques en commentaire en suspens. Mais de la part d'hommes, de femmes, enfin voilà, ça a suscité beaucoup de réactions. Et c'est que forcément ça fait parler, donc c'est que le sujet est d'actualité.
Ouais, et comme vous disiez, c'est les vêtements bizarrement qui font beaucoup réagir, quoi.
Beaucoup les vêtements et les capacités physiques, parce que je sais pas pourquoi, il y a une idée selon laquelle on le sait, hein, il y a la culture du viol qui pose problème, donc je pense que les vêtements ça s'inscrit plein de malentendants. Il y a voilà, des préjugés sur le viol, comme quoi le vêtement susciterait l'appel au viol, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai, une personne ne viole pas un vêtement, il viole une personne. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aborder tous ces sujets, parce que même si c'est du sexisme ordinaire, il y a plein de sujets connexes en fait qu'on dénonce à travers lui, dont celui dont je viens vous citer. Et puis les remarques qui font beaucoup parler d'elle, c'est aussi les remarques sur les capacités physiques ou psychologiques ou mentales, l'intelligence, la force physique par exemple. Beaucoup d'hommes qui s'insurgent en disant oui, mais non, de toute façon un homme c'est beaucoup plus fort qu'une femme. Alors peut-être, mais qu'est-ce que la force au final? Est-ce que c'est la force physique? Est-ce que c'est les muscles? Est-ce que c'est l'endurance? Enfin voilà, il y a tout un débat autour de ça, parce que beaucoup de personnes ne sont pas forcément d'accord avec les mêmes définitions, et donc c'est important de rappeler qu'il y a plusieurs types de force et que c'est pas une question d'être une femme ou un homme qu'on peut se permettre d'être jugé moins ou plus fort.
Si, j'ai une question qui me vient en tête, la première, c'est la dernière, c'est que du coup dans les commentaires négatifs, c'est que des hommes ou il y a aussi des femmes?
Il y a aussi des femmes. D'ailleurs, il y en a une qui m'a énormément choquée. C'était sur la question de la jupe, justement. Une femme qui était convaincue que la jupe, que voilà, il y avait des façons de s'habiller, que la jupe, si c'était trop court, il fallait pas se plaindre. Voilà, le discours un peu qu'on a de tous les jours, quoi. Et cette nana-là travaille en collège. Donc elle disait, moi, à mes élèves, les filles, je leur dis. Qu'elles n'ont pas qu'à s'habiller comme ça, parce que après elles auront des problèmes, quoi. Et en fait, c'est ce contre quoi on lutte, en fait. Donc j'ai sorti tous les arguments possibles et imaginables pour lui expliquer, pour la convaincre, pour lui dire que il fallait absolument pas qu'elle fasse ça, et qu'au contraire il faut apprendre aux hommes à pas embêter les femmes, et pas l'inverse, pas les femmes à se protéger, parce qu'il faut prendre le problème à la source et pas forcément la conséquence, quoi. Et elle a pas démenti, elle a pas changé son opinion, et c'était vraiment très compliqué, quoi. Donc ça arrive, c'est rare, c'est plus rare, parce que c'est beaucoup plus des hommes, mais ça arrive de la même façon qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont féministes et on parle pas assez d'eux, des hommes qui soutiennent la cause, des hommes qui donnent leur opinion et leurs suggestions sur la page. Donc voilà.
Eh ben, merci beaucoup Marion hein, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous rappelle le compte Instagram à suivre, Punchlinette, pour avoir plein de remarques drôles sur le sexisme ordinaire. Et vous pouvez aussi vous-même donc proposer des punchlines à Marion via ce compte Instagram.
Vibration, vibrez avec nous.
Call us what we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, didn't even try with them. I should have known then that you were jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive.
Ladies and gentlemen, I present to you the X.
His favorite game is chess, who would ever guess? Playing with the pieces in my chest. Now he's on the screen, I'm saying don't leave. You saw that line from me, cause you're just jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive. Running out of your place, I said I never want to see your face. I mean, I couldn't wait to see it again. We were toxic.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Vibration, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
On parle souvent de la charge mentale qui pèse sur les femmes dans les couples, mais avez-vous entendu parler également de la charge contraceptive, soit le fait d'être responsable de ne pas procréer dans un couple? À l'occasion de la journée mondiale de la vasectomie le 13 novembre dernier, on avait interviewé Erwan Taverne, cofondateur de l'association Garcon, pour groupe d'action et de recherche pour la contraception.
Alors la vasectomie, c'est une méthode de stérilisation, donc de contraception définitive, qui consiste à sectionner et ligaturer les canaux déférents. Donc c'est ceux qui acheminent les spermatozoïdes des testicules vers la prostate avant l'éjaculation. Donc on sectionne juste à la sortie des testicules.
Et par an, est-ce que l'on sait à peu près combien de vasectomies sont pratiquées en France ?
Alors là, on est à peu près, selon les dernières valeurs, à environ un peu plus de 23 000 interventions par an. Ce qui représente 12 fois plus qu'il y a 12 ans, sachant qu'on est parti de très très bas.
Comment expliquer qu'on soit justement parti d'un chiffre très très bas? Qu'est-ce qui fait que les hommes hésitent à sauter le pas? Est-ce qu'il y a beaucoup de freins à sauter le pas? Est-ce que ça leur fait peur?
Oui, et puis il y a aussi des freins liés à l'accès à cette intervention, parce que aujourd'hui on peut on voit que même s'il n'y a pas de politique publique en sa faveur, de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui se sont informés par eux-mêmes et donc qui ont fait les démarches pour pouvoir y accéder. Ça marche assez bien pour les personnes qui ont 40 ans et au moins 2 gamins. C'est plus compliqué pour les personnes jeunes, parfois sans enfants, ou si légalement elles devraient pouvoir y accéder. En pratique, ça peut être compliqué de trouver un urologue qui accepte de pratiquer l'intervention.
Justement, quelles sont les conditions légales pour pouvoir faire une vasectomie ?
Alors, la loi pose un certain nombre de conditions nécessaires pour pouvoir accéder à l'intervention, mais n'offre pas de garantie. Ce qui fait que, justement, des urologues peuvent avoir tendance à ajouter des conditions qui ne sont pas inscrites dans la loi. Bon, nous, on est plus dans l'accompagnement et on n'incite pas les gens. Simplement, on informe les personnes qui souhaitent obtenir une contraception qui leur convient. La vasectomie est effectivement une méthode qui est particulièrement intéressante parce qu'elle est très fiable, très facile à mettre en œuvre. C'est plus simple de faire une vasectomie qu'une ligature des trompes. C'est vraiment une méthode qui a beaucoup d'intérêt si on sait qu'on procréera plus. Aujourd'hui, finalement, le seul problème de la vasectomie, c'est justement qu'elle soit définitive.
C'est quoi les cas les plus fréquents d'hommes qui viennent vous voir pour s'informer sur une vasectomie? J'imagine que c'est souvent les hommes qui ont déjà eu des enfants.
Alors ça, c'est clairement souvent dans ce contexte-là que ça fait. Hein. C'est une contraception qui a lieu souvent dans un couple où la femme a pu prendre en charge la contraception pendant longtemps. Et puis, une fois qu'on sait qu'il n'y a plus de projet de procréer, effectivement, le partenaire peut décider de prendre le relais. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart des pays où l'intervention est beaucoup pratiquée. Comme je disais, ce sont généralement des bonhommes qui ont 40 ans et qui ont déjà procréé, mais pas parce que les autres sont pas intéressés, c'est plutôt parce que les autres peuvent avoir des difficultés à trouver la personne qui accepte d'intervenir chirurgicalement. On voit qu'il y a des personnes plus jeunes et qui n'ont pas forcément fait d'enfants qui aimeraient pouvoir y avoir recours.
Mais justement, qu'est-ce qui les en empêche d'avoir recours à une vasectomie?
Alors, en ce qui concerne les difficultés d'accès, d'une part, parfois les délais peuvent être longs en hôpital public. Dans le secteur privé, il peut y avoir des dépassements d'honoraires qui peuvent être importants. Donc, ça fait que c'est une méthode qui est davantage utilisée par des personnes qui sont des catégories socio-professionnelles relativement élevées. Et puis, les problèmes liés à l'âge et au nombre d'enfants dont j'ai déjà parlé.
Pour autant, malgré tous ces freins et ces restrictions, la vasectomie, ça intéresse de plus en plus d'hommes.
Les statistiques sont assez parlantes. Hein. 12 fois plus d'interventions en 12 ans, alors qu'il n'y a pas eu de politique publique menée pour mieux faire connaître cette intervention et la rendre plus accessible. Je trouve que ça parle de soi. On voit qu'il y a eu un changement de mentalité qui s'est opéré, que globalement, ce qui s'est passé, hein, c'est que suite à la crise de la pilule, il y a beaucoup de femmes qui ont remis en question ce fait de porter seule la charge contraceptive. Et donc, par les recherches, c'est comme ça que la vasectomie s'est faite connaître et que le nombre d'interventions a augmenté.
Et vous le disiez, en plus des chiffres qui augmentent sans aucune politique publique de la part du gouvernement français.
Ah, mais la France est particulièrement en retard sur ces questions. Il y a 10 ans, on était à moins de 1% de recours à la vasectomie, quand dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, globalement les pays anglo-saxons, on est entre 10 et 20% de recours à la vasectomie. Et même si aujourd'hui le nombre d'interventions en France a été multiplié par 12, ça ne veut pas dire qu'on est passé de moins de 1% à presque 12. Parce que il faut que ça puisse se cumuler sur l'ensemble d'une génération. Donc, si on conserve le même nombre d'interventions annuelles, il va nous falloir 30 ans avant d'arriver à 12%.
Mais pourquoi un tel retard en France?
Alors, il y a un livre très intéressant qui s'appelle « Opération vasectomie » et qui explique ça en détail. Maintenant, il faut avoir en tête que, historiquement, la France est un pays nataliste et que la vasectomie a longtemps été considérée, comme toute stérilisation en France, ça a été considéré comme une mutilation. Et donc, il a fallu attendre la loi de 2001 pour qu'il y ait un cadre légal qui autorise cette opération. Alors que dans les pays anglo-saxons, qui ont plutôt une approche malthusienne depuis longtemps, cette intervention est devenue très accessible et c'est vraiment répandu déjà à partir des années 70. De toute façon, pour tous les sujets liés à la sexualité, à toute la sphère intime, on a toujours quelque chose de, voilà, un paysage qui est assez hétérogène. Mais quand même, on voit que c'est un sujet qui est de plus en plus facilement abordé. Et finalement, aujourd'hui, les réticences, elles sont d'abord dans le secteur médical qui hésite à intervenir sur les personnes jeunes et sans enfants. Il y a aussi le fait que c'est une intervention qui est mal prise en charge par la sécurité sociale. Et donc, c'est une intervention qui est déficitaire hein, dans le budget d'hôpital public. Donc, ça n'aide pas à ce que la pratique puisse se répandre dans le milieu hospitalier. Déjà, il faut savoir qu'il y a un délai de réflexion obligatoire de 4 mois entre le moment où on va faire part de son intention d'être stérilisé et le moment où l'intervention pourra avoir lieu. Il faut savoir que c'est le plus long délai légal imposé pour une quelconque intervention chirurgicale. À titre d'intervention, pour une chirurgie esthétique, on va être sur un délai de l'ordre de 2 semaines. Donc, pour commencer à faire courir ce délai, on peut s'adresser à un médecin généraliste qui va certifier qu'il a donné les informations, remettre un dossier à la personne qui va pouvoir prendre rendez-vous avec un urologue qui lui pourra pratiquer l'intervention. Si l'intervention est pratiquée en milieu public, elle sera complètement prise en charge. En revanche, il peut y avoir des dépassements d'honoraires dans le milieu privé, ça peut être plus ou moins pris en charge par des mutuelles. Et donc, il y a des personnes pour qui ça va rien coûter en milieu privé et d'autres pour qui ça peut coûter parfois 1 000, 2 000 euros, hein, parce que les tarifs pratiqués peuvent être très, très différents d'un urologue à l'autre. Mais en tout cas, dans les pays où c'est largement pratiqué, globalement, c'est une intervention qui coûte aux alentours de 300 euros.
Et la question qui fâche, est-ce qu'il peut y avoir des complications après une vasectomie ?
Les complications post-opératoires sont vraiment rarissimes. Il faut soit qu'il y ait eu une mauvaise manipulation du chirurgien, s'il a l'habitude de le faire, il n'y a pas de raison qu'il y ait problème de ce genre. Il y a également la nécessité de ne pas éjaculer ou de porter de charge lourde dans les quelques jours qui suivent l'intervention. Bon, si on ne prend pas cette précaution-là, bah, du coup, on peut saboter le travail qui a été fait par le chirurgien. Mais globalement, les statistiques montrent que c'est vraiment une intervention très très simple avec des complications post-opératoires vraiment très rares. Généralement, ça se limite à quelques hématomes parce qu'il peut y avoir un peu de sang qui va couler, un peu de gonflement, etc. mais qui s'estompe très rapidement.
Vibration. Vibrez avec nous.
Titanic, y a des choses que je comprendrai jamais. Pyramide, et j'ai pensé tomber contre toi. Italique, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. You make me feel good. La main sur ma taille, ensemble dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice. Rissant every time. J'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-moi. You make me feel good. Iconique, plus y a de danger, plus je me sens à l'aise. Ironique, et j'ai pensé mourir avec toi. Cyanide, j'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. You make me feel good. La main sur ma taille, on s'en va dans le taxi. C'est vraiment super sexy. You make me feel nice. Rissant every time. J'y ai pensé mille fois. If you want me, dis-moi. You make me feel good. Feel good. La main sur ma taille.
l'événement musical le plus attendu de la rentrée. En septembre, il revient. Après une édition record en 2024 et plus de 143 000 spectateurs dans toute la région, le Tour Vibration revient encore plus fort pour sa 9e édition.
Get the fuck, let's go!
4 dates exceptionnelles, 4 villes prêtes à vibrer à nouveau au rythme des plus grands artistes en live. Le 6 septembre à Sorigny, le 13 à Châteauroux, le 20 à Romorantin et le 27 septembre au Mans. Des concerts 100% gratuits, une ambiance survoltée, une tournée à vivre entre amis ou en famille et en musique. Le Tour Vibration, c'est la plus grande tournée de concerts gratuits de la rentrée. Plus d'infos sur vibration.fr. Le Tour Vibration, créateur d'émotions.
But now I'm dancing to a band with all the